À Saint-Augustin, près de Thérouanne, dans le Pas-de-Calais, l'association À Travers Champs a pour but de promouvoir l'art et la culture en milieu rural. Sur un espace naturel de 3 hectares, elle propose de se retrouver, de se ressourcer et d'assister à de nombreux concerts et spectacles, notamment cet été. Pour en parler, Frédéric Janin, attaché de production, et Gérard Cellier, président de l'association.
À Travers Champs existe depuis 1998. Elle a été créée suite à un lieu où il se passait déjà pas mal de choses, où il y avait plasticiens, musiciens, scénographes qui venaient y travailler dans un lieu privé. Et après, on s'est dit, ce serait peut-être bien de mettre un statut juridique au-dessus de ça pour pouvoir l'ouvrir au public. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a créé l'association en 98 de façon à pouvoir accueillir tout simplement du public.
Et le but concrètement aujourd'hui en 2025, c'est quoi le but de cette association ?
Eh bien, les buts sont assez multiples. Il y a à la fois de la programmation, de la production, de la diffusion de spectacles. Et en règle générale, c'est la promotion de la culture en milieu rural. Parce qu'on est situé à Saint-Augustin, une petite commune près de Saint-Omer.
Et donc, vous avez installé l'espace culturel du hameau de Saint-Jean sur un espace naturel de 3 hectares, et c'est là où vous produisez tout ce que vous faites, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs zones. Effectivement, il y a 3 hectares. Il y a ce qu'on appelle l'arboretum, qui est une zone un petit peu restée un peu sauvage. Il y a la petite salle, le petit cabaret, je dirais, qui est une salle qui contient... il y a une jauge d'à peu près 70 places, 70 personnes. Ensuite, il y a le jardin d'agrément, je dirais, où il y a tout un ensemble de zones. Il y a le jardin bleu, il y a le jardin mosaïque, il y a le jardin des simples, les plantes médicinales, donc qui est un espace déjà en lui-même assez riche. Ensuite, il y a les staminets de plein air, où il y a également le Nomade Théâtre qui se situe là, où on organise sur cette partie-là, qui fait un petit hectare, je dirais, où on organise également des spectacles. Ensuite, il y a le jardin pédagogique solidaire, qui en fait, c'est un jardin de maraîchage, je dirais, où il y a effectivement une serre. Il y a un petit hectare, je dirais, d'espace destiné à la culture maraîchère. Et ensuite, il y a un chapiteau qui est prévu, en fait, à la fois comme lieu de stockage, lieu de concert. Et en même temps, il y a un autre projet qui arrive là, qui est encore en essence, je dirais, c'est faire un marché couvert avec les producteurs locaux. C'est-à-dire là, on en arrive effectivement quand on parle de circuits courts et de produits locaux et ainsi de suite. Nous, on s'inscrit dans cette démarche-là aussi.
Donc vous l'avez dit, programmation, production et diffusion. Donc programmation de spectacles comme cet été, on va en parler. Production d'artistes aussi. Quel genre d'artistes et comment vous les aidez ?
Eh bien, on travaille avec des artistes, la plupart sont de la région des Hauts-de-France, notamment un groupe qui s'appelle Lunar, avec qui on travaille depuis 3 ans maintenant. Donc, on les aide en fait par un soutien au niveau administratif et au niveau de la communication, donc pour leur propre communication et la communication vers les programmateurs. Hein, le but, forcément, c'est de pouvoir, à eux de pouvoir jouer et de pouvoir s'exprimer. Après, l'aide, elle peut être aussi de trouver des lieux de résidence, donc des partenaires, où ils vont pouvoir créer leur spectacle, que ce soit aussi bien en jeune public qu'en musique ou en théâtre aussi.
En termes génériques, en fait, À Travers Champs, c'est un lieu de création, un lieu de production, un lieu de diffusion, où tout mode d'expression, tout langage artistique doit y trouver sa place, considérant que, quand on parle d'art en général, c'est à chaque fois un mode d'expression. Voilà, c'est pour ça que les aveugles vont choisir la musique et que les sourds pourront faire de la peinture. Non, il faut savoir qu'effectivement, quand on parle d'art et de culture, il ne faut pas oublier que ce sont des modes d'expression, des langages. Quand on parle de culture, ça peut être quelque chose qui peut sembler, quand on emploie ce terme, dans l'oreille de, peut-être, je me trompe, mais un peu élitiste. Alors que, en fait, non, chacun peut... avoir accès à un mode d'expression qui lui convienne en fonction de ses aptitudes, de ses goûts, de ses capacités. Voilà.
Et vous décrivez comme un outil À Travers Champs.
Voilà. Alors, on a toujours tendance à dire À Travers Champs est un outil. Un outil, c'est fait pour servir à condition d'avoir le mode d'emploi. Voilà.
Donc, on le reprécise, vous proposez des spectacles, des concerts, des animations, soit au sein de l'espace culturel du hameau de Saint-Jean, ou en extérieur aussi, dans des écoles, dans des structures, dans d'autres communes.
Voilà, tout à fait. Ben, y a des spectacles qui vont être produits dans les collèges, notamment, on est déjà intervenu au collège de Limbe ou le collège de Terouanne. Et puis, on organise depuis l'année dernière... Un festival jeune public, donc conjointement en partenariat avec le réseau des bibliothèques de la CAPSO. Donc là, cette année, il a eu lieu la dernière semaine du mois d'avril et il y a eu 4 représentations sur 4 communes différentes du territoire. Après, ça, c'est aussi un aspect que l'association a toujours eu. Elle a toujours organisé des spectacles dans les communes, dans les salles des fêtes. L'année dernière, il y avait eu, par exemple, un concert de gospel à Nordosque. On avait co-organisé avec la commune et on peut aussi mettre en place des événements avec les collectivités locales ou d'autres associations.
Alors là, pour cet été, on va annoncer un peu le programme. On a notamment une soirée poésie le 24 juin, alors de la chanson, de la poésie sur le thème du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Là, en fait, c'est l'association SOLT, qui veut dire Saint-Omer en toutes lettres, qui sont effectivement des partenaires également. Et là, ils travaillent à chaque fois sur des thématiques. Ils choisissent un thème. Et donc, toutes les poésies, les chansons seront sur un thème précis. Et là, c'était le thème...
Le cinéma.
Comment ?
Le cinéma, je pense.
Le cinéma. Donc, toutes les... tout ce qui a trait au cinéma, les chansons et les... Voilà.
Parmi les autres événements, donc ça c'est une bonne partie de l'été, du 4 juillet au 8 août, vous avez un événement qui va se passer tous les vendredis, le bar de plein air. Qui ouvre ses portes tous les vendredis. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce bar de plein air ? On y fait quoi ?
Alors, le bar de plein air, il a été créé par les bénévoles de l'association, d'ailleurs, qui ont organisé depuis l'année dernière des événements tous les vendredis. Alors, ce n'est pas pendant tout l'été, c'est sur une période. Là, ici, il doit y avoir 5-6 vendredis. Là, ce sera du 4 juillet au 8 août, ou les vendredis de 18h à 22h, les gens peuvent venir dans les jardins du hameau de Saint-Jean pour profiter des jardins, profiter de la fin de la journée et du bar de plein air où sera également joué de la musique. Donc soit il y a des groupes qui viendront se produire et il y a aussi des DJ qui seront là pour mettre de la musique et animer les fins de journée.
Et pour terminer les vacances, vous avez aussi un festival punk rock qui a lieu où exactement ?
Au hameau de Saint-Jean, pareil, au même endroit.
Exactement au même endroit, le 23 août.
Le 23 août, c'est ça. Et la programmation cette année, il y aura donc les Garçons Bouchers qui seront là en tête d'affiche. Le groupe Acide Gras, Gvas, Amino Acid Club et Radio Cagette. Et ensuite, à partir de minuit, il y a un DJ avec Moby Disc qui sera présent pour clôturer la soirée.
Et on peut aussi évoquer en quelques mots, le 14 septembre, vous participez au Jardin en scène. Donc ça, c'est mis en place par la région. C'est toujours autour de la musique et du jardin ?
Tout à fait, on a eu la chance. C'est la première édition en fait, à laquelle on participe à Jardin en scène. Et donc ça aura lieu le dimanche 14 septembre sur toute l'après-midi où il y aura à la fois des concerts, il y aura un spectacle théâtral avec le cabaret des oubliés de la compagnie J'ai tué mon bouc. Il y aura aussi du théâtre de marionnettes. Enfin voilà, on va créer pas mal d'événements sur la journée pour faire vivre l'association et faire vivre aussi la région.
Et on le précise, vos jardins, donc cet espace naturel de 3 hectares à Saint-Augustin, on peut aussi le visiter. Il faut réserver, mais le visiter librement.
Il est fait pour ça, effectivement. De préférence, effectivement, sur rendez-vous.
Pourquoi ça vaut le coup de le voir, ce jardin, de le découvrir ?
Parce qu'il y a toute une diversité de plantes. Ce jardin qui s'est construit en 10, 15, 20 ans. Donc, on peut imaginer tout ce qui a été... semer, planter, et en plus il y a toujours la part de la nature et qui prend sa place effectivement et qui permet la découverte également de plantes sauvages, de choses comme ça, d'un monde qui nous entoure où il y a une faune et une flore très riches puisque le hameau de Saint-Jean, il y a à la fois des terres marécageuses, sablonneuses et argileuses, qui fait qu'il y a toute une biodiversité, une faune et une flore très très riches, et qu'on amène à découvrir également.
Et on peut aussi devenir bénévole pour terminer au sein de votre association à travers champs. Qu'est-ce qu'on fait quand on est bénévole chez vous ?
Exactement. Et ben, quand on est bénévole, il y a plein de choses à faire. On est là pour, déjà avant les spectacles, il faut organiser, il faut nettoyer, il faut mettre en place que ce soit la scène, que ce soit le bar, que ce soit dans les jardins. Donc voilà, il ne faut pas hésiter si vous êtes intéressé à nous contacter.
Vous en saurez donc plus sur la programmation de l'association À Travers Champs à Saint-Augustin, près de Tarouane, dans le Pas-de-Calais, directement sur leur page Facebook du même nom. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus Lille, vous écoutez votre radio préférée sur le 106,6 de la bande FM en métropole lilloise, en DAB+, autour de Lille et dans l'Ariégeois, ainsi qu'à travers le monde grâce au www.campuslille.com.
Elle ne supporte plus quand il pleure devant elle. Elle ne supporte plus lui et ses malheurs. Elle ne supporte plus quand il gémit et se plaint. Il joue la comédie, monsieur est comédien. Elle ne supporte plus son haleine, sa violence. Elle ne supporte plus quand il tend ses mains, quand il tend ses bras et lui raconte n'importe quoi et ne pardonne pas. Elle ne supporte plus quand il fait le fier. Elle ne supporte plus sa façon d'embrasser. Elle ne supporte plus sa manière de s'amuser, sa manière de se moquer.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
ce qu'il va lui dire.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
qu'il va lui mentir. Elle ne supporte plus lui et ses grimaces. Elle ne supporte plus quand il joue avec elle. Elle ne supporte plus quand il se met à genoux, quand il lui dit tout à coup tu m'aimes. Elle ne supporte plus ses faux airs de poseur, quand il lui dit qu'elle ne peut pas comprendre. Quand monsieur explique à madame qu'elle a besoin de lui, que sans lui c'est plus pareil.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
ce qu'il va lui dire.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
qu'il va lui mentir. Il joue la comédie, monsieur est comédien. Elle ne supporte plus son haleine, sa violence. Elle ne supporte plus quand il tend ses mains, quand il tend ses bras et lui raconte n'importe quoi et ne pardonne pas.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
ce qu'il va lui dire.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance.
Elle ne supporte plus
qu'il va lui mentir.
Elle ne supporte plus,
elle le sait d'avance. Ce qu'il va lui dire,
elle ne supporte plus.
Elle le sait d'avance,
elle ne supporte plus
qu'il va lui mentir.
We'll be right back. Manger sainement, si possible du bio, du local et sans se ruiner, beaucoup de personnes aimeraient pouvoir le faire, notamment dans les quartiers populaires. Seulement voilà, l'inflation sur les produits alimentaires, couplée aux difficultés sociales, fait qu'aujourd'hui, ces produits sont inaccessibles pour beaucoup de foyers. On parle même parfois de désert alimentaire dans certaines villes. L'association Vrac Artois, qui est une antenne de l'association Vrac Hauts-de-France, tente d'inverser cette tendance en organisant des groupements d'achat et des épiceries éphémères avec des produits locaux, de qualité et à bas prix. Vrac Artois a récemment ouvert une antenne à Evin-Malmaison, près d'Hénin-Beaumont. Aurélien Catouillard, chargé de projet alimentation durable au sein de l'association Vrac Artois.
Vrac, ça veut dire vers un réseau d'achat en commun. Et ça s'est créé sur le constat que tout le monde n'avait pas accès à des aliments de qualité, et notamment les personnes qui habitent dans un quartier populaire. Et on s'est dit, en fait, l'alimentation, c'est un droit et tout le monde devrait pouvoir avoir accès à des aliments de qualité, quel que soit son endroit où il habite, quels que soient ses revenus, enfin vraiment que tout le monde puisse avoir accès. Du coup, notre mission, comme vous avez dit, c'est de lutter contre la précarité alimentaire et aussi faciliter l'accessibilité des aliments de qualité dans les quartiers populaires. Et l'association Vrac Artois, du coup, elle s'est créée en 2023. Elle est, en fait, c'est une antenne de l'association Vrac Hauts-de-France qui a elle-même été créée en 2021. Et Vrac Artois a pu se lancer grâce au partenariat de deux bailleurs qui sont Maisons et Cités et SIA Habitat, mais aussi grâce à Pas-de-Calais Actif, en fait, qui est une structure qui accompagne le lancement de projets dans l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, du coup, c'est arrivé d'abord sur le territoire de Lens-Liévin, car c'est l'agglomération elle-même, en fait, qui est venue chercher Vrac pour déployer ce projet sur le territoire. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, on compte 3 salariés qui sont issus du bassin minier.
Dans notre région, selon des chiffres de 2017 émanant de l'ARS, l'Agence régionale de santé, plus d'un quart des personnes interrogées déclaraient ne pas consommer de fruits et légumes chaque jour et près d'un quart des habitants étaient en situation d'obésité. C'est ce qui a poussé l'association Vrac Hauts-de-France à agir. Aurélien Catouillard.
On a fait le constat que dans les quartiers populaires et aussi du coup en fait dans les Hauts-de-France, en fait il y a de plus en plus de personnes qui souffrent du diabète, qui n'ont pas forcément accès à des alimentations de qualité et du coup avec les impacts sur la santé qui s'en suivent. Et notamment ce qu'on peut voir c'est que par exemple les 10% les plus pauvres en fait ont deux fois plus de chances que de développer des maladies que les 10% les plus riches. Ça, c'est un chiffre qu'on peut avoir avec les études sur l'alimentation. Et du coup, c'est vraiment ces inégalités sociales et les impacts derrière que Vrac vient vraiment lutter ou en tout cas agir pour éviter tout ça.
Et comment décidez-vous de l'implantation dans tel ou tel territoire, dans tel ou tel lieu ?
Alors du coup, l'implantation dans telle ou telle ville, territoire, en fait, ça se fait en groupe. Hein. Enfin voilà, c'est les groupements d'achat qu'on déploie, c'est vraiment un collectif. Et ça se fait vraiment avec les bailleurs qui sont membres fondateurs de l'association, mais aussi les collectivités, les communes et aussi surtout les habitants. Puisque du coup, il ne faut pas les oublier, parce que vraiment, ils sont vraiment partie intégrante du projet. Et sans eux, ce ne serait vraiment pas possible de pouvoir développer des groupements d'achat.
Aurélien Catouillard de l'association Vrac Artois nous explique plus précisément le fonctionnement des groupements d'achat et des épiceries éphémères de l'association.
Alors du coup, un groupement d'achat, c'est tout simplement un lieu où les habitants peuvent se rassembler et commander en fait en gros des produits que l'on propose du coup qui sont bio et ou locaux et ensuite venir les chercher sur place en épicerie.
C'est à peu près 70 références, c'est ça ?
Ouais, aujourd'hui, on est même à presque 100 références. Donc, ça peut aller vraiment. Donc, il y a des paniers de légumes. Il y a beaucoup de produits secs, généralement. Donc, les fruits à coque, les fruits secs. Ça peut aussi aller des produits d'entretien, un petit peu, et aussi des produits d'hygiène.
Comment vous travaillez ? Avec qui vous travaillez ?
Alors, du coup, on travaille avec des producteurs qui sont locaux. Donc, par exemple, 59% des produits en fait, que l'on propose au catalogue viennent de la région de France et dont 19% du Pas-de-Calais. Donc, on travaille vraiment au plus proche possible avec les locaux, avec les producteurs de notre territoire. On a aussi d'autres producteurs qui sont par notre réseau Vrac France que j'ai parlé tout à l'heure, hein, mais qui sont toujours. Avec une agriculture raisonnée et vraiment des produits qui sont biologiques au maximum. Et du coup, on travaille main dans la main avec ces producteurs-là, puisqu'en fait, lorsqu'on propose les produits des producteurs au catalogue, c'est vraiment eux qui fixent leur prix. Donc, si vous allez voir le catalogue, par exemple, il y aura toujours un prix de base pour chaque produit, ça s'appelle le prix producteur, et c'est vraiment ce que le producteur fixe. Nous, on ne vient pas négocier, parce que l'enjeu aussi derrière Vrac, c'est de pouvoir aussi assurer une bonne rémunération, une juste rémunération au producteur qui rémunère correctement son travail. Et aussi, on fait des visites de producteurs. Donc, ça, c'est aussi les animations qu'on fait à côté des épiceries qui sont toute l'année. Et justement, on fait des visites de producteurs pour que les habitants puissent aussi prendre connaissance des pratiques de producteurs qu'on propose, de comment ça fonctionne, comment c'est produit, ce que l'on mange et par qui. Et donc vraiment de vraiment d'en apprendre davantage sur tous ces aspects de agriculture biologique.
Est-ce que justement pour eux c'est important aussi de travailler avec vous réciproquement? Est-ce que ça constitue pour eux une opportunité, j'allais dire un petit débouché, ou ça reste quand même quelque chose de marginal pour eux?
Ça dépend des producteurs. Il y a des producteurs où ça peut vraiment avoir un impact. Ça peut les aider justement à avoir un peu plus de coûts de vente. Et justement, ça nous permet aussi de soutenir les producteurs locaux où, comme vous le dites, en fait, c'est parfois aussi compliqué de faire de l'agriculture biologique et aussi de l'agriculture tout court. Hein. C'est des domaines qui sont confrontés à des difficultés aussi, comme tous les autres domaines, mais ça permet nous aussi de les soutenir. Nous, on a des producteurs qui allaient, par exemple, arrêter leur filière agricole. Et nous, avec notre soutien, on essaye, hein, évidemment, on n'est pas la solution miracle, hein, mais on essaye de leur montrer que leur activité a vraiment une importance fondamentale, hein, de nourrir les personnes, de nourrir les gens et les habitants. C'est quelque chose de fondamental et en fait, tout le monde en a besoin.
Concrètement, quelle est la différence de prix entre un achat d'un produit alimentaire effectué en supermarché et le même produit dans une épicerie éphémère de l'association Vrac Artois? La réponse d'Aurélien Catouillard.
Par exemple, nous, ce qu'on propose, c'est aussi des lingots du Nord, donc en fait des haricots blancs, hein, qui sont vendus au tarif producteur de coût de 3,70 € le kilo. Donc ça, vraiment, c'est ce que va percevoir le producteur lorsque vous allez acheter un kilo de lingots du Nord. Et ensuite, on propose une triple tarification. Quelque chose de très important à savoir, c'est que les épiceries, sont vraiment ouvertes à toutes et à tous, sans condition de revenu, que vous habitez la ville ou le quartier où il y a un groupement d'achat Vrac ou pas. C'est vraiment ouvert à tous, hein, vraiment, j'insiste, sans condition de revenu. Et on propose du coup une triple tarification qui, va rendre accessible financièrement les produits, mais en fonction des situations des personnes. Du coup, on a en fait trois tarifs. Il y a le tarif bleu, en fait, qui a jusqu'à moins 50% du prix producteur. Le tarif jaune, qui est jusqu'à moins 10% du prix producteur. Et le tarif rose, qui a plus 10% du prix producteur. Au niveau, du coup, de ces tarifs, donc, par exemple, pour le lingot du Nord, vous paierez, du coup, 1,85 € le kilo si vous êtes tarif bleu, 3,33 € le kilo si vous êtes tarif jaune, ou encore 4,07 € si vous êtes tarif rose.
Et le même produit en grande surface?
Alors, on n'a pas forcément, enfin là, je n'ai pas sur la main, du coup, les produits et les comparateurs avec les grandes surfaces. Ce qu'on sait, du coup, c'est les produits qu'on propose sont, du coup, bio et ou locaux. Et du coup, soit ils ne sont pas forcément proposés en grande surface, ou soit ils sont proposés dans des magasins spécialisés. Mais en fait, nous, on peut les proposer à un prix plus accessible du fait qu'on est une association. On ne souhaite pas faire du profit et surtout, on vend au tarif producteur, qui est vraiment le tarif fixé par le producteur. Et aussi et surtout, en fait, le tarif jaune et bleu, donc celui-là qui a moins 10% et à moins 50%, sont possibles grâce à une aide de l'État, en fait, qui est le fonds Mélanger pour tous, qui vient du coup mettre le complément pour toujours payer au même prix le producteur.
Et après vérification, ce même lingot du Nord en supermarché est proposé à plus de 9 € le kilogramme, soit plus du double que le tarif le plus élevé de l'association. Mais chaque épicerie éphémère de Vrac Artois n'est ouverte qu'une fois par mois. J'ai demandé à Aurélien Catouillard si vraiment il n'y avait aucune vérification de la situation personnelle des personnes se fournissant à Vrac Artois.
Nous, chez Vrac, on souhaite faire marcher sur la confiance. Du coup, lorsque vous venez à l'épicerie, le jour de l'épicerie, vous ne pourrez pas tout de suite acheter, parce qu'en fait, nous, vu que c'est une épicerie éphémère, on vient vraiment une fois par mois dans les quartiers, par un local qui est prêté par la ville, généralement, et on vient vraiment tout installer le jour-là, c'est de 15h à 18h, et du coup, on ne peut pas forcément stocker. Ce sont les personnes du coup, qui sont adhérentes à l'association qui commandent 2 semaines avant le jour de l'épicerie, en ligne ou en permanence, hein, sur place, pour ceux qui n'ont pas Internet ou qui ne souhaitent pas l'utiliser. Et justement, c'est ces personnes-là du coup, qui peuvent retirer leur commande du coup, le jour J avec leur propre contenant. Donc ça peut être des bocaux, des sacs craft, hein, des sacs en toile, parce que du coup, c'est vendu en vrac. Hein, ça permet d'avoir aussi des prix plus accessibles de commander en gros. Et il n'y a pas une analyse de la situation, puisqu'en fait, lorsque vous adhérez, du coup, une fois par an, hein, à l'association, vous choisissez le groupement d'achat, donc en fait, la ville où l'on est implanté, sachant qu'on en a 6 aujourd'hui, hein, il y en a 5 sur le territoire de l'Orsay-Liévin, on a Ulu, Arnes, Bully-les-Mines, Liévin et Salomines, et aussi le premier sur le territoire d'Hénin-Carvin, du coup, qui a Evin-Malmaison. Donc en fait, lorsque la personne adhère, elle choisit son groupement d'achat et elle choisit également son tarif. Et du coup, tout à l'heure, je disais, les tarifs, en fait, c'est en fonction des situations et non pas des revenus. Il y a quelques exemples qui sont, enfin, deux situations qui sont données pour les tarifs, et tarif rose, jaune ou bleu. Et c'est vous qui choisissez, lorsque vous adhérez, vraiment le tarif que vous souhaitez avoir. Pour le tarif rose et le tarif jaune, on se base sur la confiance. C'est vraiment du déclaratif et on ne vient pas vérifier quoi que ce soit. Le tarif bleu, vu qu'en fait, il est majoritairement aidé par l'État, on va juste vérifier un document qui démontre que la personne est bien dans une situation qui est éligible au tarif bleu, mais on ne garde pas du tout ce document-là. C'est vraiment, on le consulte et la personne, du coup, est tranquille pendant un an. Et il y a juste, en fait, quel que soit le tarif, il n'y a que ben, moi, en fait, et la personne qui sait quel tarif elle est. Vraiment, c'est pour vraiment faciliter l'accessibilité des produits et de l'épicerie pour tout le monde et sans vouloir vraiment mettre des personnes dans les cases, puisque ce n'est pas l'enjeu. C'est vraiment la mixité sociale, puisque tout le monde doit avoir le droit à accéder à de la nourriture et à une alimentation de qualité. Et surtout, tout le monde a des choses à partager, même en épicerie, puisque c'est vraiment un espace convivial.
Aurélien Catouillard de l'association Vrac Artois revient également sur l'ouverture récente à Evin-Malmaison le 5 mai dernier du groupement d'achat et de l'épicerie éphémère.
Je vous avoue, quand on ouvre une nouvelle épicerie, on lance un nouveau groupement d'achat, on a toujours une crainte que ça ne fonctionne pas. Hein, évidemment, on a toujours cette petite crainte, mais en fait, ça s'est très bien passé. On a eu plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues, on a eu plus d'une dizaine de commandes, et les gens ont vraiment apprécié ce moment-là. Et tout ça, en fait, n'aurait pas été possible sans nos partenaires, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, un groupement d'achat, c'est un collectif, hein, ça s'est très bien passé, c'était vraiment un moment d'échange, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questionnements, hein, évidemment, puisqu'on découvre, hein, et il y a eu aussi de la dégustation. Puisque, en fait, chez Vrac, ce que l'on souhaite faire, c'est que les personnes puissent choisir les produits qu'elles souhaitent au catalogue. Et à ce moment-là, en fait, on lançait la collaboration avec un nouveau producteur, enfin, un nouveau boulanger qui vient de Béthune. Et puisqu'on souhaite éviter de choisir pour les habitants, on a proposé à dégustation plusieurs pains où, du coup, les personnes ont pu faire voter pour le pain qu'ils préféraient et le pain qu'ils souhaitaient voir. Avoir au catalogue à venir.
Enfin, Aurélien Catouillard nous livre quelques chiffres sur le nombre de personnes bénéficiant de l'action de Vrac Artois.
Avec les 6 groupements d'achat, Vrac Artois rassemble aujourd'hui maintenant 213 foyers adhérents, ce qui représente un peu plus de 500 habitants, et aussi 68 bénévoles.
Dans la région, outre Vrac Artois, d'autres antennes locales de Vrac Hauts-de-France existent notamment en métropole lilloise. Pour plus d'infos, rendez-vous sur hdf.vrac-asso.org. C'était un sujet de Jean-Philippe Planck de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la Ferme d'en Haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
We'll be right back. les kilomètres défilent, je viens de dépasser l'île. Plus de champs de tulipes, je flippe. Parfums en cavale, mécanique tip-top, aux douces pétales, j'adore cette opéra sol. Plus de champs de tulipes, je flippe. J'ai toujours aimé les moulins rouges et les tulipes. J'ai toujours aimé les moulins rouges, ni quoi, ni qui, ni le stouch. J'ai toujours aimé les moulins rouges, les roues qui tournent, tout ce qui bouge. J'ai toujours aimé les moulins rouges, les senteurs de sandales, tu diffuses leur pâle. Les senteurs de sandales, que diffuses leur pâle. C'est un avril très banal, et ça roule. Postale immobile et moi coincé dans la ville.
Douceurs infernales et de psychotropes.
Cernés par les pipes chauds. Je flippe. Olympe de gauche.
Maillot blanc, meilleur temps. Maillot à poids, c'est pas pour toi.
Le Nord accueille la 112e édition du Tour de France à partir du 5 juillet. Le 7 juillet, la troisième étape partira de la ville de Valenciennes jusqu'à Dunkerque. 172 km qui traverseront les villes de Saint-Amand-les-Eaux, Orchy, Seclin, Béthune ou encore Cassel. Dans l'Athènes du Nord, le Tour de France est un événement très attendu, comme l'explique Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme et de la Cité des Congrès. Réalisé lors de l'étape des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France.
Effectivement, c'est une très belle opportunité pour la ville et pour la destination, une opportunité médiatique, une opportunité de pouvoir accueillir le monde entier. On est sur des courses internationales avec une fréquentation internationale également. Et puis de se dire qu'en dehors de la course, les personnes vont passer par Valenciennes, vont voir des images de Valenciennes et vont avoir envie d'y projeter un séjour. Donc c'est pour ça qu'on accompagne ces grands événements.
Quelle est votre place au sein de l'organisation ? Vous êtes aussi dans les réunions ?
Oui, il y a tout un ensemble de réunions, sécurité, accueil, tout un dispositif pour pouvoir envisager aussi le meilleur accueil possible. Quand on parle du Tour de France, on parle de 30 000 personnes au minimum qui peuvent venir sur Valenciennes avec des restrictions de circulation. Donc comment bien accueillir tout le public et comment surtout lui donner envie de revenir pour y séjourner et pour y vivre une expérience touristique beaucoup plus longue.
C'est un vrai coup de projecteur sur Valenciennes, comment on en profite ?
On essaye de profiter de tout, on essaye d'être au plus près du public, comme aujourd'hui, être au contact direct de ce public. Ça se prépare sur les réseaux sociaux, ça se prépare sur, avec les restaurateurs. On a aussi des partenariats pour des mises en valeur de restaurants. Et puis dans l'accompagnement de nos partenaires touristiques pour qu'on ait ce maillon et cette chaîne d'accueil et d'hospitalité chère au Nord et encore plus chère sur Valenciennes au niveau de l'accueil.
Vous ressentez déjà quelques mois du Tour de France, on va dire quelques semaines déjà maintenant, vous ressentez dans les réservations, les nuitées, l'hôtel, la restauration
Oui, alors on a les premiers indicateurs qui sont très positifs avec les équipes, le staff ASO, organisateur du Tour de France. Et puis là, on voit qu'il y a de la nuitée touristique qui vient s'additionner. On sait aussi qu'il va y avoir des nuitées qui vont être concentrées sur Valenciennes, parce que Valenciennes a aussi ce rôle d'être proche de toutes les villes qui vont être ville départ, ville d'arrivée. On est quand même dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir 4 jours de course. Et Valenciennes peut jouer ce rôle aussi d'appui pour les nuitées. Et on est facilement après sur les autres destinations. destination par train ou par automobile, c'est très facile.
Je suppose qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent vous voir en disant comment on vient pour le Tour de France. Ça se précise là où vous avez déjà des pistes ?
Oui, tout à fait. On a les premières demandes, effectivement, sur l'organisation. Je viens avec un camping-car, je viens en voiture, je viens en train, où je suis habitant et je voudrais savoir où est le meilleur endroit pour profiter de toutes les animations. Donc là, on a toutes les informations sur les lieux où seront implantés les villages départ, les villages gastronomiques, les bus, cars des coureurs. Donc voilà, on a une très bonne idée de la logistique. Donc on accompagne après chacun, soit par nos réseaux, soit par le site internet et surtout aussi par notre site d'accueil du Mont-de-Piété derrière le musée des Beaux-Arts.
Comment aussi l'ensemble de Valenciennes Métropole pourra en profiter ?
Oui, tout à fait. Donc tout est concentré sur la ville, mais bien sûr, au-delà de la ville, c'est le territoire qui rayonne. Et donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir capter ces personnes, de pouvoir leur montrer que Valenciennes, ils ont déjà un impact très positif quand ils sont sur l'événement, mais que Valenciennes, c'est aussi une dimension nature avec le parc naturel Scarpesco. C'est une dimension aussi patrimoine avec le patrimoine rural du sud du Valenciennois. C'est le patrimoine UNESCO de la mine et la dimension artistique de la ville. Et donc ça, c'est plein de choses qu'ils ne verront peut-être pas parce qu'il y aura un ensemble de caravanes et de villages qui sera installé sur Valenciennes. Mais nous, on surfe sur ce premier avis positif de leur venue sur Valenciennes pour pouvoir les accompagner sur une projection de séjour.
À l'Office de tourisme, le Tour de France se vit avant, pendant et après. Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme.
Il y a presque un redémarrage derrière le Tour de France où on va pouvoir capitaliser sur les images qui auront tourné. On va pouvoir aussi enclencher des nouvelles actions vers la presse internationale où on aura aussi cet effet, on pourra dire, vous vous souvenez, c'était la troisième étape du Tour de France, ils sont partis de Valenciennes. Donc c'est vraiment très important, c'est effectivement un des gros enjeux avant, pendant et après. Et on est dans une destination qui continue à monter sur la partie loisirs, donc voilà, on prend toutes ces opportunités, on les transforme pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles.
Le Hainaut est une terre de vélo. Juste à côté, évidemment, il y a la porte du Hainaut avec les grandes courses cyclistes. Mais vous voulez faire en sorte que Valenciennes ne soit pas en reste ?
Oui, et après, on réfléchit très largement Hainaut. On sait qu'un touriste ne viendra pas sur un territoire à l'échelle d'une agglomération. Pour lui, venir à Valenciennes, c'est d'être dans le Nord, c'est d'être quasi en Belgique. Donc, il faut qu'on unisse toutes nos forces. Et on est très content d'avoir cette marque internationale du Paris-Roubaix qui est sur notre territoire, sur la porte du Hainaut. De la dynamique aussi sur la porte du Hainaut, sur du vélo, qui complète celle qui est sur Valenciennes Métropole. Donc, voilà, unissons nos forces parce que le tourisme, il n'a pas de frontières. Donc, il faut surtout qu'on puisse développer la collaboration, l'attractivité large et après nous de transformer en nuitée pour que ça fasse des retombées économiques sur notre territoire.
Il va y avoir des visites spécifiques, vous allez profiter du Tour de France, est-ce que vous pensez faire par exemple un city tour sur les lieux du passage du Tour de France ? Comment vous pensez réfléchir à l'après ?
Alors c'est compliqué parce que le City Tour en fait, c'est pas compliqué, c'est assez facile parce que le City Tour, le tour protocolaire des coureurs à Valenciennes, c'est déjà un tour qui emprunte beaucoup de spots touristiques. Donc nous on a ce qui est juste derrière vous, un tuk-tuk électrique, c'est un petit véhicule électrique à trois roues qui peut emporter quatre personnes et on propose des visites guidées tout l'été. Donc ça commence le 5 juillet, donc juste avant le week-end du Tour de France et puis on accompagne pendant une heure les clients sur les boulevards, sur le centre-ville et ils peuvent voir déjà toutes les spots patrimoine et cadre de vie de la ville de Valenciennes.
Et puis favoriser la mobilité douce.
Tout à fait, et surtout accessible à tous, hein, que ce soit des enfants, des personnes qui ont du mal à se déplacer aussi. Et on est électrique, donc à une douceur, et c'est ce qu'on appelle la Dolce Vita valencianoise, cette idée de profiter de la ville, cheveux au vent et sourire aux lèvres.
Là, il y a le soleil, justement, on vit un petit peu une Dolce Vita aujourd'hui pour le départ de ces 4 jours de Dunkerque à Valenciennes. Ici, c'est un premier échauffement du Tour de France ?
Ouais, c'est une très très belle mise en bouche. On est ravis. Effectivement, le temps ne peut que souligner tous les efforts de tous les partenaires pour l'organisation de ces événements-là. Et oui, on se projette déjà dans cette saison estivale qu'on espère tous très prometteuse, très fournie. Et puis on voit aussi que sur la métropole, il y a un dynamisme avec d'autres partenaires, la Cité des Congrès. On a un ensemble d'événements. On est parti là sur une saison riche en événements.
Récompense les leaders. intermédiaires. Ceux qui ont donné du cœur gagneront le maillot vert.
À quelques semaines du passage du Tour de France et de sa caravane, Vincent Simonet nous explique ce qu'il reste à faire à Valenciennes.
Ça sera toute la montée en puissance de la communication autour de l'événement, le fait de pouvoir aussi travailler sur les points d'accueil, sur les parkings, sur les différents lieux pour pouvoir orienter les visiteurs qui vont venir de loin et qui seront relayés sur des parkings, des parkings un peu plus lointains, mais sur lesquels on va assurer une mobilité vers la ligne d'arrivée la plus facile et la plus agréable possible. Et puis accompagner aussi nos partenaires, hôteliers, restaurateurs, sur la communication de l'événement.
Il y a une vraie communion aussi entre hôteliers, restaurateurs pour cet événement international.
Oui, tout à fait. L'accueil ne peut pas reposer que sur un unique office de tourisme. On est vraiment sur l'ensemble des partenaires. Et voilà, on sait que tout le monde va passer par un hôtel, un restaurant à un moment donné dans sa découverte du territoire. Et donc, il faut qu'on soit tous unis et qu'on donne tous ensemble cette très belle image à l'occasion de cet événement.
Et cyclistes comme visiteurs, quand ils viennent dans le Nord, ils veulent goûter évidemment les produits régionaux. Là aussi, c'est le local qui sera mis en avant.
Oui, tout à fait. En plus, ça rejoint notre mission permanente de la mise en valeur des produits locaux et des producteurs locaux. Donc, c'est effectivement la mise en valeur des restaurants qui vont travailler ces produits-là. C'est aussi dans notre boutique à l'office de tourisme, la mise en valeur des producteurs, que ce soit du miel, du chocolat, de la bière, de la limonade, de toutes les spécialités qui sont faites made in Valenciennes. Et puis, on sait que les cyclistes, ils pourront revenir chez nous parce qu'on a aussi des réseaux points nœuds, ces systèmes qui permettent de pouvoir accompagner des grandes randonnées et pour faire de la grande itinérance à travers le bassin minier.
Comment une ville comme Valenciennes, une grande ville, est une étape du Tour de France ? Parce qu'il faut s'organiser, mais c'est aussi bousculer un petit peu les habitudes, que ça devienne aussi un terrain de sport.
Oui, tout à fait, mais c'est toute la force de la ville, de l'agglomération, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir mobiliser tous les services, réfléchir ensemble, construire ensemble et innover ensemble. Il y a toujours cette touche valenciennoise de créativité qui ressort, et donc c'est ces défis-là qui sont relevés haut la main et qui sont très plaisants à vivre parce qu'on est sur des tours de table très larges où ça ne se limite pas qu'à des effets de sport et de sécurité, mais on intègre vraiment tous les partenaires pour faire rayonner l'événement.
Sans pression, mais vous êtes prêts à accueillir le monde ?
Ouais, avec grande envie. Ouais, grande envie. La pression, c'est la pression de bien le faire et ça, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais avec beaucoup d'envie, ouais.
Le 7 juillet, Valenciennes accueille la troisième étape du Tour de France. Rencontre avec Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme, réalisée lors de l'étape à Valenciennes des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Reste pour les icônes.
Radio Campus Hill, la mosaïque des cultures, la conviction des opinions, l'éventail des musiques.
Vous avez assez de cette bande de racailles. Bon, on va vous en débarrasser.
C'est que la France ne peut pas être le seul pays au monde qui ne puisse décider de qui est accepté sur notre territoire et de qui n'est pas le bienvenu.
Ouais, Sarko. Ouais, passe-moi là, Sarko. Voilà, j'ai dit, c'est moi qui t'appelle. Ouais, d'accord. Écoute-moi bien, j'ai dit, voilà. Toi, tu dis quoi? Toi, tu n'as jamais mangé chez quelqu'un. Hein? Toi, tu n'as pas encore mangé. J'ai dit, est-ce que tu n'as jamais mangé chez quelqu'un?
Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Il s'appelle Nicolas Sarkozy, il a inventé l'immigration choisie. C'est l'histoire d'un fils hongrois qui veut se faire couronner chez les Gaulois. Fini l'époque du négro musclé, belle dent. Aujourd'hui, il veut du noir diplômé, intelligent. C'est ça le critère du nouveau négrier qui a le culot d'aller en Afrique pour l'expliquer.
Dis-moi, Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Il s'appelle Sarkozy Nicolas. Il dit si t'aimes pas la France, tu t'es là. Il dit aussi qu'il n'a rien contre les Africains. Seulement la France n'a plus assez de pain. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, descendant d'un immigré subi, mais qui se vante d'être le roi du charter. Depuis qu'il est à l'intérieur du ministère, dis-moi Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
La France n'a pas non plus les moyens d'accueillir tous ceux qui voient en elle un Eldorado.
Il dit qu'il aime les Africains, mais je sais, ils font trop d'enfants qu'il faut plus faire. Au cachet ou pas charter, il nettoie la France. Attention, la racaille, 2007, la délivrance. C'est l'histoire de Nicolas Sarkozy, descendant d'un immigré subi, mais qui croit qu'il a un grand destin, destin. Et que la France heureuse, c'est zéro clandestin.
Dis-moi, Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Il dit qu'il n'a rien contre les Africains, seulement c'est plus facile avec les Roumains. En plus, ils n'ont qu'une seule femme, pendant que les Noirs sont polygames. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a inventé l'immigration choisie. Fait couronner chez les Gaulois. Alors,
dis-moi, Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Nous avons le droit de choisir
Nicolas
notre
Sarkozy,
immigration.
Pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Nous avons le droit de choisir
Nicolas
notre
Sarkozy,
immigration.
Pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Nous avons le droit
Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Nous avons le droit de jouer.
Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Sarko, attends. Si tu n'as pas de causerie, il faut dire que ton maman dort. Voilà. D'accord, Sarko. Voilà, si tu sens, on peut te mettre d'accord. Hein? Nous, on n'a pas besoin. Ici, regarde, j'ai dit. On est d'accord, on est pauvre, mais ici, il n'y a pas de colossards. Tu entends? Voilà, j'ai dit, ici, il n'y a pas de colossards. C'est vous. Dans ton pays, là, il y a colossards, il n'y a pas de colossards ici. Sarko, voilà. Moi, je m'appelle Zongo. Voilà, d'accord. Burkina Faso, voilà, d'accord. Merci beaucoup, ma condoléance.
Nicolas Sarkozy.
My hands in my hand. And one morning, the morning's pain is in my hand. Radio Campus, il est 7h.